Césariao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de ce jeudi midi. Découverte des poissons morts dans la baie de Biétry au quartier ancien Koumassi à Abidjan. Des prélèvements ont été faits et une enquête est en cours pour situer l'origine de ce problème écologique, nous dira Ghislain Koulibaly dans un constat à terrain. Un atelier de réflexion sur la stratégie de gestion des infrastructures civiles de l'État, notamment celle héritée de la 34e édition de la Cannes 2023, s'est ouvert hier mercredi ici à Abidjan. Selon professeur Alfred Nguessan, directeur de cabinet du ministre délégué auprès du premier ministre en charge des sports et du cadre de vie, la réflexion relative à la gestion des infrastructures justifie que les observations se poursuivent dans un cadre inclusif, d'où la tenue de cet atelier. Dans l'actualité internationale, l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain lance sa chemine de nouveau vers un affrontement Joe Biden-Donald Trump, surtout à cause du Super Tuesday remporté par l'actuel et l'ancien président. Et en toute fin d'édition, Jean-Mélène Bitty recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction Yasmina Dotia, présidente de l'ONG d'aide aux enfants atteints du cancer. Avec elle, il sera question de lutte contre cette maladie chez les enfants. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, en ouverture de ce jeudi midi, découverte des poissons morts dans la baie de Biétry au quartier ancien Koumassi à Abidjan. Des prélèvements ont été faits, une enquête est en cours pour situer l'origine de ce problème écologique. Pendant ce temps, les carpes et anguilles en putréfaction ont commencé à être collectées avec l'expertise du CIAPOL, Centre Ivoirien Antipollution, pour être par la suite enfouies dans un endroit sécurisé. Tout cela se fait avec le concours des populations riveraines. Reportage signé Ghislain Koulibaly.
Quand c'est comme cela, c'est pas joli à voir.
Sekou est un jeune du quartier. Il nous présente ici quelques poissons morts flottant sur l'eau au rythme des petites vagues.
C'est la première fois qu'on voit ça.
Sekou fait partie des volontaires qui aident à dégager ces débris halieutiques en état de décomposition. Il y a aussi Régis, fabricant et mécanicien de bateaux exerçant sur la rive. Il nous explique comment il contribue au nettoyage de ce lieu.
Avec des gants, nous les ramassons. Voilà. Il y a Siapol qui est là. Donc quand nous ramassons, nous déposons. Eux, maintenant, ils vont traiter ça, ils vont jeter ailleurs.
Les agents du centre antipollution présents n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro. Plusieurs structures étatiques sont impliquées dans cette phase d'assainissement. C'est le cas de la direction du service vétérinaire. Le chef de service, Dr Toba Cyril, nous explique la démarche.
Ce que nous faisons, c'est d'assainir le site en ramassant tous les poissons qui flottent sur l'eau là, aller les détruire dans une zone sécurisée et également sensibiliser les riverains.
Et pour évaluer les conséquences d'un tel phénomène sur l'homme, un contrôle radiologique de l'environnement est aussi mené. Didier Couan, de l'autorité de radioprotection.
Nous effectuons des mesures brutes de radioactivité que nous collectons comme échantillon. C'est pour aller effectuer des mesures fines au niveau du laboratoire. Et c'est à la suite de ces mesures fines-là que nous pourrons dire s'il y a eu contamination ou pas.
Les résultats de ces différents tests et prélèvements aideront sûrement à faire la lumière sur les causes de ce problème environnemental.
Autre chose dans ce journal, atelier régional des agences de rapportage et publication et planification des activités du Fonds français Muskoka FFM. La rencontre se tient en ce moment à Abidjan avec l'appui du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Celle-ci réunit une cinquantaine de participants venus de 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Fatim Tal, représentante résidente de l'OMS en Côte d'Ivoire.
Permettez-moi de souligner les efforts de tous qui ont permis à la région africaine au sud du Sahara de faire des progrès remarquables. La mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de 35%. Le taux de mortalité néonatale a baissé de 21% et la mortalité maternelle a diminué de 28%. Le dernier Copil pays pour la Côte d'Ivoire tenu le 20 février 2024 a mis en exergue des résultats tangibles auquel ont contribué le fonds français Muskoka. L'amélioration de 26% de la qualité des soins de prévention et de traitement des complications obstétricales, notamment l'avortement, l'hémorragie du postpartum et la pré-éclampsie-éclampsie. La vulgarisation des soins mère kangourou avec la création de 15 unités et d'un centre national de référence des soins mère kangourou. La réintégration dans le circuit scolaire de 1097 filles à travers l'initiative Réintégration des filles mères. Et enfin, l'engagement de plus d'une centaine de leaders communautaires pour mener des actions de sensibilisation et de développement de mécanismes d'alerte précoce sur les cas de mutilation génitale féminine et de violences basées sur le genre.
Voilà, à l'instant, Fatim Tall, représentante résidente de l'OMS en Côte d'Ivoire. La rencontre d'Abidjan intervient après celle tenue en mars 2022 à Lomé au Togo, où il a été jugé nécessaire de rendre effective la nouvelle génération des plans de travail annuels des équipes interagences des pays bénéficiaires du fonds français Muskoka. Arlette Mvondo, présidente du comité technique du FFM Cotec.
Cet atelier de planification qui nous réunit cette semaine a pour objectif d'assurer une appropriation collective de cette stratégie 3.0, d'assurer également la synergie et la collaboration inter-agences qui sont les piliers et les fonds du succès du mécanisme Fonds français Muskoka. Il sera question de renforcer à la fois l'alignement avec les priorités nationales, la planification pour une atteinte effective des résultats, la redevabilité et le partage des bonnes pratique. Garantir à chaque femme et à chaque enfant l'accès aux soins de santé de qualité est essentiel pour renforcer le capital humain, bâtir des économies robustes et mettre fin à la pauvreté. Afin d'accélérer les efforts dans ce domaine, nous avons élaboré la stratégie pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants, des nouveau-nés, des adolescents et des jeunes, appelée affectueusement Muskoka 3.0. Pour soutenir la mise en œuvre de cette stratégie, la France a déjà renouvelé son engagement financier en faveur du Fonds français Muskoka jusqu'en 2026.
Voilà, à l'instant, Arlette Mvondo, présidente du comité technique du FFM Cotec. La gestion des infrastructures sportives de l'État au centre des préoccupations de l'Office national des sports ONS qui a organisé à cet effet un atelier de réflexion autour du thème stratégie de gestion des infrastructures civiles de l'État et de gouvernance de l'ONS face aux nouveaux défis. Cet atelier de réflexion qui a ouvert ses portes hier, mercredi donc, en présence du directeur de cabinet, du ministre délégué, ministre des sports et du cadre de vie, à Silas Mec, Nguessan Alfred prend fin aujourd'hui jeudi. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Sur l'objectif de cet atelier qui réunit plusieurs personnalités issues du monde sportif, des entreprises, des ministères et de la primature, le directeur général de l'Office national des sports donne des explications.
Le tout est de parvenir à une approche qui puisse permettre à l'État de garder ses infrastructures en bon état et surtout de pouvoir les exploiter efficacement. Les réflexions nous permettront de déterminer un certain nombre de pistes sur lesquelles l'Office national des sports va travailler.
Pour ceux qui veulent la création d'une nouvelle structure pour la gestion des infrastructures sportives liées à la CAN 2023, Ousmane Gbané, directeur de l'ONS, répond.
Toutes les infrastructures de la CAN ont été construites sous la houlette de l'Office national des sports et ces infrastructures jusqu'à ce jour et pendant la CAN ont été gérées avec beaucoup de rigueur par l'Office national des sports. Il est clair aussi que l'environnement est mouvant, que le contexte est nouveau et donc il y a certainement de nouveaux paradigmes qu'il faut adopter.
Outre les projets de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives qui sont en cours de réalisation, tels que les agoras et les anses aquatiques, l'ONS gère à ce jour plus d'une cinquantaine d'infrastructures sportives de l'État.
Les populations ébriées de la commune d'Abidjan à Djamé ne sont pas opposées aux travaux relatifs au prolongement du tracé du quatrième pont devant passer par leur village. Elles plaident auprès de l'État ivoirien pour un site de recasement dans la dite commune afin que les travaux puissent suivre leur cours. Les précisions avec le secrétaire général de la chefferie d'Abidjan à Djamé, Mobio Kousoukri Prosper.
Sans clair, les ébriers d'Adjamé ce sont les autochtones à Gamé. Ils sont là depuis le 17e siècle. Et c'est ce petit village-là qui a donné naissance à la délégation d'Agamé dans les années 60, dirigée par Atumbré Joseph. Et après, ça a donné naissance à la commune d'Agamé. J'explique tout ça pour vous dire simplement que nous n'avons pas autre village. Donc ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est un plaidoyer. Nous ne faisons pas un bras de fer avec l'État. Qui sommes-nous pour faire un bras de fer avec l'État? Nous demandons simplement à l'État de Côte d'Ivoire d'analyser avec bienveillance nos doléances, de nous trouver des sites dans Agamé où on va construire des maisons pour les Achans, les Tchamans, les Bidjan-Djemé, c'est-à-dire d'Abidjan-Djemé, pour qu'ils partent là-bas et puis voilà, on construit la route. On n'est pas opposé. Pas de bras de fer. Et je l'ai déjà dit. J'ai dit que le président de la République peut-être n'est pas bien informé de la situation qui prévaut actuellement. Le premier ministre nous envoie ses émissaires, nous échangeons, mais ce sont les mêmes choses qui reviennent. Nous, c'est pardon que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire.
Voilà à l'instant le secrétaire général de la chefferie d'Abidjan, Djamé Mobio, Koussoukri Prosper. Direction l'intérieur du pays maintenant, dans le souci d'un développement inclusif de la commune de Man, le conseil municipal avec à sa tête son premier magistrat, Boubacar Sidi Fofana, vient de mettre sur pied une cellule de 150 premiers délégués des zones, histoire de rapprocher la municipalité des populations. Ces délégués ont pour mission de sensibiliser les populations à avoir un comportement citoyen et prolonger la politique sociale du conseil municipal dans leurs zones respectives. Des détails avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
Quant aux délégués en question qui ont pris part à cette rencontre, qui les associent désormais à toutes les actions de développement de la municipalité, ont en unanimité apprécié l'initiative du maire Aboubacar Fofana.
Demandez Marceline, vice-présidente de coopérative Soukpavite. Vraiment, je suis très joyeuse. Ça peut changer le désordre qui est dans le quartier. Tout le monde ne peut pas se lever ensemble pour venir voir le maire. C'est nous qui devons arranger tout ce que la population du quartier a besoin envers le maire.
Aimé Gondo, délégué Belleville 2. Je pense que monsieur le maire a fait fort parce que les délégués vont faire remonter les informations de sorte à ce que la municipalité soit au parfum de tout ce qui se passe dans le quartier. Et donc je crois que c'est un outil que la population doit saisir.
Pour sa part, le maire Aboubacar Fofana dit attacher beaucoup d'intérêt à ce projet qu'il recommande vivement à l'ensemble des populations de la commune de Man.
Je voudrais que nous retenions l'objectivité de cette initiative, l'ouverture de la municipalité, l'envie de la municipalité de faire participer tout un chacun à la question de développement de cette ville de Man. Et que cet outil soit donc pour chacun de nous le véhicule de lien avec la municipalité. J'invite d'abord les délégués à assumer pleinement leur rôle. J'invite aussi la population à accueillir ces délégués dans leur rôle et la municipalité à apporter le soutien à ces délégués pour que ce soit une réalité sur le terrain et que ce ne soit pas un outil de trop.
Notons que la commune de Man a été subdivisée en 50 zones et les villages communaux constituent chacun une zone. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024, sauf au cataclysme, on s'achemine encore, comme en 2020, vers un affrontement Joe Biden-Donald Trump, et cela surtout à cause du Super Tuesday remporté par l'actuel et l'ancien président. On fait le point avec Francis Cassie.
Le Super Tuesday, ou Super Mardi en français, porte ce nom car il s'agit d'une journée lors de laquelle un grand nombre d'États votent pour les primaires le même jour. 15 cette année, notamment l'Alabama, la Californie et le Colorado. Il y a ainsi plus d'États à remporter ce jour-là qu'à n'importe quelle autre primaire. En fait, les primaires sont aux États-Unis des élections au sein des partis politiques pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle. Et pour le Super Tuesday du mardi 5 mars, Donald Trump a raflé 14 États sur les 15 en jeu, confirmant sa marche triomphante vers l'investiture républicaine. Notons que après son triomphe, Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, qui lui disputait cette investiture, a décidé ce 6 mars, selon plusieurs médias américains, de mettre fin à sa campagne dans la primaire républicaine. Joe Biden, côté démocrate, a lui remporté tous les États en jeu. Au final, le Super Tuesday de ce 5 mars est un pas décisif en avant vers un nouveau duel entre l'actuel président américain démocrate et son prédécesseur républicain pour l'élection présidentielle du 5 novembre 2024. Surtout que la Cour suprême américaine a rejeté le lundi 4 mars les tentatives de plusieurs États américains, dont le Maine, le Colorado et l'Illinois, qui avaient interdit à Trump de se représenter suite à l'attaque du Capitole en janvier 2021.
En sport football, le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif ont présenté hier mercredi le trophée de la CAN 2023 à l'ensemble du mouvement sportif ivoirien au siège de l'institution. Au cours de cette rencontre pleine de convivialité, de bonnes nouvelles, de grandes annonces au profit du football local ont été faites par le directeur du comité exécutif de la FIFARMA, Gourou, que nous écoutons.
Le président et ce comité exécutif ont décidé de faire un accompagnement exceptionnel de 757 millions pour le football amateur, reparti de la manière suivante. 200 millions pour la division 3, 107 millions pour les clubs de la division régionale, 250 millions pour les clubs du district, 104 millions pour le football féminin et 12 millions pour les ligues régionales. En ce qui concerne le football professionnel, un accompagnement exceptionnel pour cette saison, une somme de 200 millions répartie entre les clubs de la Ligue 1 et ceux de la Ligue 2. Un autre accompagnement de la Ligue de football professionnel de 5 millions et également de la Ligue de football amateur. Mais en plus de ces moyens important. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a décidé d'offrir des cars au club de Côte d'Ivoire. Mais le comité exécutif ne s'est pas arrêté là. Le président et son comité exécutif décident d'octroyer 7 millions à l'ensemble des commissaires au match. Ces commissions indépendantes, qui sont au nombre de 5, recevront la somme de 12 500 000 francs. Le comité exécutif décide d'octroyer 25 millions à ces 5 groupements d'intérêts en raison de 5 millions par groupement d'intérêt. 40 millions à l'ensemble des commissions permanentes. Le président et son comité exécutif ont donc décidé d'octroyer à chaque association de journalistes la somme de 2 500 000 francs.
Voilà, c'était Armand Gourou, président du comité exécutif de la FIF, et signalons qu'au cours de cette rencontre, le président de la FIF, Idriss Diallo, a lancé un appel à l'union, à la solidarité et à la confiance retrouvée au sein du football ivoirien grâce au trophée de la CAN 2023. À présent, l'invité de la rédaction, le cancer gagne du terrain chez les enfants en Côte d'Ivoire. Selon l'OMS, c'est environ 2000 nouveaux cas enregistrés chaque année dans le pays. Quels sont les signes avant-coureurs de cette maladie chez les enfants et les plaidoyers pour sa prise en charge en Côte d'Ivoire? Eh bien, pour répondre à ces questions, Yasmina Dotia, présidente de l'ONG d'aide aux enfants atteints du cancer, répond aux questions de Jean-Mélène Bit.
Yasmina Dotia, vous êtes ?
Je suis Yasmina Dotia, présidente de l'AEC, qui est l'Association d'aide aux enfants atteints du cancer, une ONG qui existe depuis 13 ans maintenant.
On enregistre 1000 nouveaux cas de cancer chez les enfants. Alors, comment vous interprétez ça ?
Ce sont des chiffres de l'OMS qui estime effectivement entre 1000 et 2000 nouveaux cas qui doivent apparaître chaque année. Mais il faut préciser qu'en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons prendre en charge que 300 enfants chaque année sur les 1000 cas qui apparaissent.
Vous, au niveau de ces ONG qui luttent contre le cancer des enfants, quelles sont les problématiques ?
Les problématiques sont à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau familial, on a constaté qu'il y a une grosse méconnaissance du cancer de l'enfant. En Côte d'Ivoire et partout en Afrique, on a tendance à penser que le cancer ne concerne que les adultes. Alors qu'il est prouvé que le cancer peut toucher un enfant même dès la naissance. Le cancer commence de 0 mois à 15 ou 17 ans pour le cancer pédiatre. Donc ce n'est vraiment pas une maladie qui est réservée aux adultes. Et souvent dans les zones rurales, la manifestation des signes du cancer pousse les personnes à penser que l'enfant est victime d'une malédiction ou bien c'est un enfant maudit parce que souvent on constate des déformations. Ça peut être une déformation du visage, l'œil qui sort de l'orbite, le ventre qui est gros et disproportionné. Donc souvent, il y a des manifestations assez visibles et la méconnaissance fait que les féticheurs ou guérisseurs traditionnels ont tendance à dire que non, c'est un enfant maudit. Et donc, ce qui fait que le temps que les parents n'arrivent à l'hôpital pour que l'enfant soit pris en charge dans le circuit de soins normal, très souvent, le cancer est déjà à un stade très avancé. La troisième problématique, c'est qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, les centres de prise en charge n'existent qu'à Abidjan. On a deux centres de prise en charge. Un centre qui se trouve au CHU de Trècheville, en pédiatrie, l'unité d'oncologie pédiatrique, et un autre centre qui est à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. À part ces deux centres, pour toute la Côte d'Ivoire, on n'a pas de centre de prise en charge pour les enfants malades du cancer. Donc, ça crée un gros problème parce que toutes les populations de l'intérieur du pays doivent trouver le moyen de venir à Abidjan. Et quand on sait que c'est des traitements qui sont très longs dans la durée, on voit que c'est assez difficile pour les familles. Dernière problématique, c'est que le cancer de l'enfant n'est pas pris en charge en Côte d'Ivoire. Il n'est pas subventionné. C'est-à-dire quoi? Les médicaments, les soins, tout est à la charge exclusive des parents et il n'y a pas de prise en charge de quote-part de l'État alors que ce sont des traitements qui coûtent cher.
Justement, vous qui œuvrez dans la lutte contre cette maladie-là, comment vous arrivez à pouvoir prendre en charge ces enfants-là?
Notre aide se situe à plusieurs niveaux. Au niveau financier, nous apportons de l'aide au niveau de la caisse sociale du CHU de Trècheville notamment et nous déposons chaque fois que nous le pouvons de l'argent qui aide à prendre en charge les familles démunies qui arrivent parce qu'il y a un petit service social et lorsque c'est coincé, on puise dans cette caisse-là pour pouvoir les aider à réaliser les analyses, payer les médicaments. Nous faisons très souvent aussi des dons en médicaments cancérigènes et nous faisons aussi un accompagnement psychologique. Nous aidons aussi à la réinsertion scolaire des enfants qui, lorsqu'ils ont fini le traitement et que les médecins estiment que leur état de santé leur permet de retourner à l'école, on essaie d'aider les familles à payer les fournitures ou une partie de la scolarité pour réinsérer les enfants dans le circuit scolaire. Et en dernier lieu, on fait aussi ce qu'on appelle des dons à la maison d'accueil, qui est une maison qui permet d'accueillir justement les familles qui viennent de l'intérieur pour de longs séjours et qui n'ont nulle part où rester.
L'intérieur du pays sont beaucoup exposés. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de structure sanitaire spécialisée pour pouvoir vite identifier ces cas de maladie-là?
Et effectivement, à l'intérieur, il y a moins de possibilités d'identifier. Mais depuis quelques années, quand même, il faut avouer qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits par le Programme national de lutte contre le cancer en association avec les ONG que nous sommes. Et il y a un gros travail de formation des personnels de santé à l'intérieur qui est fait pour qu'ils soient alertés sur les premiers signes d'appel du cancer de l'enfant et que, à la vue de ces signes-là, ils puissent orienter les familles vers les centres qui pourront permettre d'approfondir le diagnostic.
Quel plaidoyer pouvez-vous faire pour que cette prise en charge soit vraiment prise en compte par les autorités étatiques?
Le plaidoyer au niveau de l'État, c'est que vraiment on puisse avoir la subvention des médicaments, la subvention des traitements même, de la chimiothérapie, de la radiothérapie et un hôpital spécialisé en cancer de l'enfant.
Et Yasmina Dotia, merci.
Merci à vous.
Voilà la présidente de l'ONG d'aide aux enfants atteints du cancer, Yasmina Dotia, était l'invitée de Jean-Mélène Bitti. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des titres. Découverte des poissons morts dans la baie de Biétri au quartier ancien Koumassi à Abidjan. Des prélèvements ont été faits et une enquête est en cours pour situer l'origine de ce problème écologique. Un atelier de réflexion sur la stratégie de gestion des infrastructures civiles de l'État, notamment celle héritée de la 34e édition de la CAN 2023, s'est ouvert hier mercredi ici même à Abidjan. Selon professeur Alfred Nguessan, directeur de cabinet du ministre délégué auprès du premier ministre en charge des sports et du cadre de vie, la réflexion relative à la gestion des infrastructures justifie que les observations se poursuivent dans un cadre inclusif. D'où la tenue de cet atelier. Enfin, dans l'actualité internationale, l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain lance sa chemine de nouveau vers un affrontement Joe Biden-Donald Trump, surtout à cause du Super Tuesday remporté par l'actuel et l'ancien président. Fin de ce jeudi midi sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Ghislain Koulibaly.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de partager avec vous l'actualité de ce 7 mars au regard des différentes parutions. Après la présentation de la nouvelle instance dirigeante du PDCI RDA, des réactions de certains membres nommés sont relayées par la presse. On y voit par exemple Jean-Louis Billon qui avait été nommé dans le secrétariat exécutif et le jour